Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, et à Cinérama on reprend les bonnes habitudes aujourd'hui avec notamment eh bien, un blind test. Les blind tests reviennent avec celui concernant Steven Soderbergh qui revient au cinéma, et c'est tant mieux, avec Logan Lucky. Donc ça donnera l'occasion au début, eh bien, d'écouter 5 extraits de sa filmographie et puis aussi une interview, Marine.
Oui, tout à fait, une interview de Tarek Boudali pour Épouse-moi mon pote qu'il réalise, dans lequel il joue, et je parlerai également du très bon nouveau film de Albert Dupontel. Au revoir là-haut.
Et toi, Manu, eh bien, tu vas nous parler de Jean-Patrick Manchette ou au moins de ses adaptations au cinéma.
Oui, pour l'occasion, pour la sortie de Laissez bronzer les cadavres, la 8e adaptation d'un roman de Jean-Patrick Manchette.
Et puis tu me parleras de Thor.
De Thor, le 3e du nom.
Et on commence avec Albert Dupontel, le dernier film.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Pour avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée. Pour avoir aimé l'affaire, vous êtes tous condamnés à mort. Exécution!
Et on commence donc avec Au revoir là-haut, fin de la guerre 14-18. Deux soldats se lient d'amitié en se sauvant mutuellement la vie. Le soldat Péricourt, fils d'un riche industriel ayant largement profité de la guerre, en rébellion contre sa famille et artiste dadaïste. Et le soldat Maillard, pauvre comptable qui va tout perdre après avoir été au front de son travail jusqu'à sa fiancée. Tous deux meurtris par la guerre, sans le sou et sans la moindre reconnaissance de la part de leur patrie, ils vont décider de monter ce que l'on appelle une arnaque à la mémoire et profiter des années folles pour vendre de faux monuments aux morts.
Ta famille, ça fait 4 ans qu'ils l'attendent.
Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître.
Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée.
Tu vends des monuments aux morts.
Il dit non aux vivants.
Ah, c'est bien, c'est bien. Bah, et après ?
Il dit on se barre avec la caisse.
Dans quelle branche êtes-vous ?
Toutes les branches basses.
Albert Dupontel sort de ses comédies névrotiques pour aller vers le film historique, vers la grande épopée romanesque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu entièrement raison de laisser de côté ses comédies hystériques et égocentriques, puisque son nouveau film est d'une maîtrise incroyable et dans l'ensemble une grande réussite. C'est son film le plus ambitieux, hein, l'adaptation d'un prix Goncourt, Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, et un film qui aborde beaucoup de sujets aussi vastes que la guerre, la famille, l'art ou l'amitié. Dupontel se sert d'événements historiques pour finalement livrer une critique anti-martiale, anti-libérale, très actuelle de la société. Sa force, c'est d'avoir su adapter cette histoire en la rendant intemporelle et violemment politique, tout en conservant son sens de l'humour. Le réalisateur démontre ici qu'il maîtrise tout autant le drame que la comédie. Alors les puristes du livre ne trouveront sans doute rien à redire quant à cette adaptation cinématographique. Le film a en commun avec le roman un parfait sens du romanesque, une grande poésie et en même temps quelque chose de très populaire dans sa narration au sens d'accessible. Voilà pour le fond. Pour ce qui est de la forme, eh bien Dupontel dit lui-même que son film est un énorme faux-semblant numérique car... En effet, la grande majorité des décors sont réalisés en post-prod. La vérité, c'est que justement, le travail visuel effectué sur tous les plans du film, que ce soit pour reconstituer le Paris des années 20 ou les scènes de guerre dans les tranchées, ce travail visuel est un véritable parti pris esthétique et le résultat est vraiment bluffant. Et puis, autre qualité parmi toutes celles que compte le film, son casting, Dupontel qui est pour une fois tout en sobriété, Laurent Lafitte, Neil Sarastrup et Nahuel Pérez Biscarat qui a entre-temps explosé dans 120 battements par minute et qui excelle ici dans un rôle quasi muet. Pour moi, c'est d'ores et déjà un de mes meilleurs films de l'année. Vraiment, courez le voir.
Voilà, et vous pourrez courir le voir eh bien, à partir du 25 octobre. Et maintenant, eh bien, on parle de Manchette, très adapté au cinéma français.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Alors, Laissez bronzer les cadavres est la huitième adaptation d'un roman de Jean-Patrick Manchette, écrit en 71 en collaboration avec l'iconoclaste Jean-Pierre Bastide, alors lui-même devenu cinéaste avec des trucs bien barrés comme Hallucinations sadiques ou Massacre pour une orgie. Alors, c'est Claude Chabrol qui s'empara pour la première fois d'un bouquin de Manchette avec Nada, coproduction franco-italienne et surtout thriller politique décomplexé et furieusement bis avec le Bellat Fabio Testi. Mais la vraie réussite viendra l'année d'après, en 75, avec L'épatant folle à tuer d'après Au château au dingo, où la craquante Marlène Jobert passe son temps à fuir et éviter de se faire descendre par le démon Thomas Millian en tueur à gages froid et implacable. On écoute un extrait.
J'ai mon vélo.
Laisse-le. Fais exactement ce qu'on nous dit. Et n'aie pas peur.
J'ai pas peur. Et un bandit? Comme à la télé?
Non, pas comme à la télé. Tu vois ce vase-là? Imagine que c'était ta tête.
Voilà comment parler aux enfants. Et le bruit caractéristique hein, des pistolets à silencieux qu'on n'entend
absolument plus aujourd'hui, non, c'est vrai. Alors il faut attendre 5 ans pour que soit à nouveau porté à l'écran un roman de Manchette hein, avec l'efficace « Trois hommes à abattre » de Jacques Deray, dans lequel Alain Delon est victime d'une machination politique. Alors bien exécuté, un spoiler classique frappe néanmoins par la manière dont l'idéologie ultra-gauchiste du roman, parce que Manchette était quand même réputé pour être très à gauche, il écrivait aussi à Charlie Hebdo des critiques ciné. Alors comme l'idéologie est totalement détournée de sa subversion initiale, mais le succès est au rendez-vous.
Ce siècle est une putain, Gerfaut. Ils sucent la moelle de ceux qui veulent bâtir, construire, conquérir. Cela dit, je ne suis pas chien. Mouzon fatigué, Germer se découvrait des scrupules de comptable, Borel louchait vers le Sénat, Cassiane tient. Je leur laissais les miettes et je grimpais sans eux. Mais voilà qu'ils se sont avisés de me trahir. Ils sont allés vous voir, vous et les vôtres. Et ils ont parlé. Je n'avais plus le choix. Ils sont morts.
Bon, Delon, omniprésent, on ne l'entend pas dans cet extrait.
Oui. Hein. c'est à lui que le personnage parle.
Alors, après deux adaptations hein, dans la lignée du film de Deray, hein, Pour la peau d'un flic, toujours avec Delon, mais aussi là de Delon, et Le choc de Romain Davis, Polar de Jacques Brel peut être considéré comme la plus fidèle et intelligente transposition de l'univers de Manchette à l'écran.
Qu'est-ce que voulez-vous lire, Alfonsino? Ne me dites pas que vous alliez vous faire tirer le portrait, mais c'est ce que vous ne croirez pas.
C'est lui qui m'a fait enlever.
Mais c'est de la poésie, tout ça. Moi, je veux des faits. Des faits. Avec les faits, on arrête les criminels. Avec la poésie, on les libère. Et on abolit la peine de mort.
Et si j'avais voulu vous raconter des bobards, j'aurais trouvé mieux, non?
Non. T'as effectivement, qu'est-ce qui a réinventé une histoire pareille? Et pourquoi elle m'avait pas appelé? À quoi on sert, nous, les flics?
Mais retournons à nos cadavres exposés en pleine canicule avec cette adaptation fidèle du premier roman écrit en partie par Manchette. Un matériau idéal pour le duo Cattet-Forzani, hein, leur permettant de s'affranchir de leur étiquette encombrante de créateurs de giallo postmoderne. Alors en effet, après Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps, on pouvait craindre que les cinéastes s'enferment dans une formule conceptuelle à la lisière de l'autisme pour Happy Few. Alors, une nécessité s'imposa, partir vers d'autres horizons, ouvrir leur champ d'expérimentation et se frotter avec un autre genre populaire, ou plutôt la combinaison de deux genres, le polar et le western, avec toujours l'Italie comme inspiration majeure.
Ils ont braqué un fourgon blindé.
Je vous donne une chance d'ouvrir. Sortez les bras en l'air et mettez-vous au milieu de la cour.
Je n'aime pas les flics, je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez?
C'est une ambiance agréable en moi.
Oui.
On entend l'ambiance western et on entend aussi Elina Lovenson, qui était une égérie du cinéma d'auteur new-yorkais des années 90.
Notamment chez l'Artley, oui. Alors, en apparence, hein, Laisser tomber bronzer les cadavres semble plus accessible, moins enclin à s'engouffrer dans un hermétisme graphique lié à la fragmentation spatiale d'un décor arachnéen des précédents giallo. Alors, les repères sont ici plus évidents et codifiés, moins surchargés en symboles aussi. Mais très vite, Cattet-Forzani repousse les limites de la narration dans un style cut et ramassé très proche de l'écriture de Manchette, impliquant cette fois-ci une déconstruction temporelle toujours chamboulée, même à quelques minutes près. Alors tout commence par un braquage de 250 kilos de lingots d'or. Les truands se réfugient dans un hameau perdu en pleine montagne où réside une artiste déjantée, Luce, qui vit avec un des gangsters. Alors tout se déroule comme prévu, dans une atmosphère sensuelle et ensoleillée, jusqu'à ce que débarque une jeune femme accompagnée de son gosse et de la nounou. La mère de l'enfant est l'épouse de Bernier, un écrivain alcoolique, ex de Luce, qui squatte à côté, mais il y a un hic, elle s'est enfuie avec un enfant dont elle n'a pas la garde, ce qui va attirer l'attention de la police qui ne va pas tarder à débarquer. Et c'est parti pour 1h15 de gunfight ultra stylisé dans une esthétique léonienne, parfois trop appuyée. Les très gros plans sur les yeux à répétition risquent d'agacer plus d'un spectateur habitué à des filmages plus académiques. Alors, règlement de compte, trahison à répétition, flashback onirique, incrustation d'images métaphoriques sont au menu de ce ballet macabre au milieu des ruines. Alors, ce qui frappe l'attention dans Laisser bronzer les cadavres, c'est bien la radicalité frontale d'un montage saccadé, obsédé par la vitesse d'exécution, juxtaposition d'images et de sonorités distordues qui servent moins le sens que la sensation. Alors, nous ne sommes pas plongés dans un univers intellectuel et théorique, mais bien au cœur d'une déclaration d'amour pour tout un pan de cinéma pas très fréquentable, le bis, élevé ici au rang d'art majeur. Alors, Carte et Forzani citent Léon, mais aussi en vrac les polars italiens d'Umberto Lenzi et Enzo Castellari, les œuvres d'Yves Boisset, et Sur la route de Salina, aussi une œuvre méconnue et psychée de Georges Lautner, dont ils reprennent à leur compte le thème musical écrit par Christophe. Alors, ce film d'action solaire, à la violence quasi abstraite, est tout entier placé sous le signe du fétichisme et de la citation. Alors, pas un plan qui ne renvoie à un imaginaire connu, à une figure de style vue ailleurs. Les emprunts musicaux à Ennio Morricone ou Nico Fidenco sont remarquablement intégrés à cette histoire sombre dont la seule morale est la suivante. L'amour de l'or n'engendre que la violence et la fureur dans une forme opératique où les minutes sont comptées pour chaque protagoniste. Alors, les auteurs s'amusent par ailleurs à indiquer l'heure toutes les minutes à l'écran. Procédé permettant néanmoins au spectateur de raccrocher à une intrigue ultra déconstruite, multipliant les points de vue différents, à des moments différents d'ailleurs, et des angles d'attaque opposés. Enfin, c'est assez, l'architecture, on va dire, de la narration est assez complexe. Alors, malgré certains motifs répétitifs, une virtuosité ostentatoire très très visible, les auteurs d'Amer parviennent à faire exister leurs personnages, non par ce qu'ils disent, mais par leur regard, leur gestuelle et leur diction, à commencer par Elina Lowenson, on en parlait au début, fascinante en peintre en art et sensuel, sorte de figure pop tout droit sortie d'un film underground new-yorkais. Alors, les séquences les plus étranges sont celles ressurgies d'un passé fantasmé ou réel de Luce et son compagnon. Dans ces glissements oniriques et érotiques, les réalisateurs se lâchent et déploient d'hallucinantes compositions graphiques où le maniérisme est porté à son point de rupture. Et plus le film avance, plus la forme devient chaotique et elliptique, jusqu'à un final cathartique d'une violence inouïe, baignant dans un climat nihiliste non dénué d'ironie. Alors, ce qui paraissait au départ comme un film plus simple, plus accessible, se complique au fur et à mesure. Et finalement, il voulait faire un film populaire, mais ce n'est pas vraiment ça encore. Je pense que le film doit être vu, mais je ne sais pas s'il va être un franc succès.
Ça, on n'en sait rien. En tout cas, il n'est pas dans tous les cinémas. Donc voilà, c'est ça aussi. Mais il est sur les écrans depuis déjà le 18 octobre. Il était question de braquage. Il en est aussi question dans le film de Steven Soderbergh, Logan Lucky.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Après Effet secondaire en 2013, Steven Soderbergh l'avait annoncé, c'en était fini du cinéma. On n'y reprendrait plus à enchaîner les films, un coup un biopic, un coup un thriller, une autre fois un film de casse, un film historique ou un film expérimental tourné à la va-vite. C'est donc vers la série que le prodige américain s'était tourné avec Doc Nick, brillante exploration des mœurs d'une clinique new-yorkaise où opère le chirurgien borderline cocaïnomane Clive Owen. Il a continué également à produire des films. Mais voilà, alors Steven Soderbergh qui revient à la charge en 2017 avec un film qui aurait pu plaire à Hollywood puisqu'il s'agit d'un film de casse. Et là, on pense au grand succès de la trilogie Oceans qui a permis à Soderbergh d'assurer ses arrières à Hollywood. Pour Logan Lucky, nous sommes donc conviés à un casse, la recette du circuit de Charlotte qui accueille des compétitions de NASCAR. Alors le NASCAR n'existe pas en France, ce sont des courses sur des ovales qui mêlent des voitures grand tourisme mais grandement améliorées dont la tôle se froisse facilement. Donc fini Las Vegas et bienvenue en Caroline du Nord, et fini également le charmant Clooney en costard trois pièces qui fait sauter la banque du casino pour séduire une femme. Place au massif Channing Tatum qui depuis quelques films est le chouchou du cinéaste et est loin d'être ton chouchou, toi Manu.
Ni le mien.
Ah, vous êtes deux maintenant. Ah bah voilà. Alors nous sommes avec les Logan, deux frères qui sont réputés dans leur coin pour attirer la poisse. L'un, interprété par Channing Tatum, aurait pu devenir footballeur américain pro si une blessure à la jambe ne l'avait pas rendu boiteux. Mais du coup, il va de boulot en boulot. Quant au cadet, interprété par Adam Driver, il lui manque son bras gauche perdu en Irak. La bagnole, le football américain, la guerre, que des blancs, on y est dans le sud américain, auprès de ceux qui ne vont pas méditer longtemps hein, avant de mettre dans l'urne un bulletin de vote aux couleurs de Trump. Mais il manque la casse-prison, et à l'intérieur, eh bien, on a Joe Bang, incarné par Daniel Craig, au sommet de sa forme en tolard sudiste. C'est lui qui peut déverrouiller le coffre. Les deux frères vont donc composer leur équipe et nous emmener avec eux faire le casse.
La course du Charlotte Motor Speedway. Je sais comment circule l'argent. Le seul qui sait exactement comment faire exploser une chambre forte de banque, c'est Joe Bang. Je suis incarcéré. Mais on a un plan pour te faire sortir.
Et oui, les choses se compliquent pour les personnages et le spectateur se cale dans son siège parce que Soderbergh, sans jamais être ennuyeux, avec même une certaine légèreté, nous détaille le plan et l'on suit eh bien, toute la procédure qui nous emmène au pied du coffre. Et comme on nous a assez rabâché avec amusement que les Logan étaient des poisseux, eh bien, on attend avec impatience l'issue du coup qu'ils préparent.
La Coca-Cola 600 est la plus grande course de l'année.
Il me faut un génie de l'informatique.
Je connais tout ce qu'il faut connaître sur les ordinateurs, ok ?
Ah bon ?
Tous les Twitter, je les connais tous par cœur.
Ils sauront ce qu'on veut bien leur dire, pas plus.
Vous, les Logan, vous êtes décidément aussi simple d'esprit que les gens le disent.
Les gens disent ça ?
Alors, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse dire sans éventer un peu le suspense, donc on ne va pas dire grand-chose. Le coup se prépare avec trois fois rien, ce qui rend le projet encore plus audacieux. Pour ce film, Soderbergh, qui peut écrire ses films, a fait confiance à une jeune scénariste et s'est attaché à une certaine bienveillance à l'égard de ses personnages, qui ne sont de toute façon pas de mauvais bougres. Hein. Il s'ensuit une description d'un sud prolétaire où le travail manque, la couverture santé n'est pas pour tous. Alors, on navigue entre les kermesses, les concours de Miss, et puis l'ovale du circuit de Charlotte, mais sans distance. Il y a quelque chose de jouissif chez le réalisateur à nous montrer cette Amérique-là qu'il n'a jamais vraiment filmée. Les thèmes de ses films ne s'y prêtent pas. Alors pour la partie du casse, comment ne pas faire confiance au réalisateur de la trilogie Oceans ? Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Soderbergh a un savoir-faire, c'est un excellent faiseur d'images. S'il parvient rarement à être profond, le réalisateur américain sait parfaitement fabriquer un film qui échappera au seul divertissement. Ici, le casse est le prétexte du réalisateur eh bien pour parler de l'Amérique profonde, des oubliés, des éclopés et du rêve américain qui a foutu le camp et qu'on est obligé de rattraper en prenant directement eh bien, dans la caisse du divertissement. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Soderbergh ne choisit pas la voie de la réflexion. Il garde le cap du film de gangster en n'oubliant pas l'ombre du FBI qui plane sur ses personnages. Le film est tonique, rythmé, drôle, coloré, parfois bruyant, et les acteurs n'en font pas trop. C'est plutôt bien que Soderbergh ait repris le chemin des cinémas, même si c'est pour se prendre une claque aux États-Unis où le film a démarré sans promo, parce que Soderbergh a toujours été un peu à l'écart d'Hollywood tout en faisant des films à Hollywood. Et là, il s'était dit, on va se passer de la promotion finalement. Pourquoi donner autant d'argent à la promotion d'un film que le film n'a coûté ? Et il se trouve qu'il a fait très peu de recettes aux États-Unis. Alors peut-être que ça va changer un peu la donne en Europe, où je pense qu'il a beaucoup plus d'adeptes.
Oui, il a plus la cote. Hein. C'est quand même un cinéaste indépendant un peu hype.
Et on va en parler. Il a fait à peu près 25 films, Soderbergh. C'est beaucoup parfois. Et en plus, il cumule tout. Hein. Il est capable de faire le scénario, la direction de la photo, cadrage, et puis aussi de faire le montage quand il n'assure pas aussi la production. Voilà. Donc, on va écouter un premier extrait.
Il y a deux choses qui me mettent en colère, Monsieur Masri. Qu'on me snobe et qu'on me mente.
Mais je n'ai pas menti.
Vous m'avez dit que tout irait bien, c'est pas le cas. J'avais confiance en vous.
Je suis profondément désolé.
J'ai pas besoin qu'on plaigne, j'ai besoin d'un salaire. Et croyez-moi, j'ai cherché. Mais quand on vient de passer 6 ans à jouer les mères de famille, c'est vachement difficile de trouver un boulot qui est pas payé au lance-pierre. Ça y est, t'as enregistré, chérie ? Ou bien alors je vais un petit peu trop vite pour toi ?
Écoutez, je compatis, vraiment. Mais notre personnel est au complet.
De la merde, moment, oui. Si vous étiez au complet, vous seriez foutu de rappeler vos clients. Je suis intelligente, je travaille dur et je suis disposée à tout faire. Je partirai pas d'ici sans emploi.
Voilà, c'était facile. Donc,
Erin Brockovich.
Erin Brockovich.
Voilà, film de 2000 avec 2,5 millions d'entrées en France. Il y en a eu beaucoup moins pour cet extrait.
Et donc, en dépit de tous nos efforts, elle n'a pas réagi.
D'accord.
Son cœur s'est arrêté de battre.
Ok.
Il se trouve, hélas, qu'elle est décédée.
D'accord.
Toutes mes condoléances, Monsieur Emhoff.
Je sais que ce n'est pas facile à accepter.
D'accord. Et maintenant, je peux aller lui parler ?
Monsieur Emhoff, je suis désolé. Votre femme est morte.
Oui, mais enfin je viens de la voir. On était à la maison.
Y a-t-il quelqu'un que l'on peut contacter? Quelqu'un que vous aimeriez à vos côtés?
Alors, ça a été trouvé aussi, Manu.
Contagion.
C'était Matt Damon.
Et on entend la voix française de Matt Damon. Matt Damon, qui est l'acteur qui a le plus joué avec Soderbergh. Il a fait 6 apparitions. Et là, dans ce film, il y avait aussi Marion Cotillard, Kate Winslet, Jude Law, Laurence Fishburne et Gwyneth Paltrow.
Qui venait de mourir, ce qui n'était pas une grosse perte.
C'était sa femme. Ouais. Troisième extrait.
Et si les événements actuels se reproduisaient sur Terre à l'échelle planétaire? Quoi, ça vous tracasse pas plus que ça? C'est une grossière erreur de postuler que cette chose est bienveillante. Si ça se trouve, elle nous pousse à la psychose pour qu'on s'entretue.
Vous croyez vraiment que c'est leur objectif? Cette chose a eu les moyens de faire tout ce qu'elle voulait, y compris nous détruire.
Soyez au labo dans une heure.
Je ne vous laisserai pas faire.
Et comment vous nous arrêterez?
Et comment vous m'empêcherez de la ramener?
Est-ce que vous voulez qu'on ramasse l'autre en chemin? Ça sera pas difficile. On calcule sa trajectoire, il y en a pour quoi? Une journée?
Autre acteur fétiche du réalisateur, c'était Georges Clooney qu'on entendait. Manu, c'est
Solaris, hein, le remake du film de Tarkovsky.
Avec plus une étude psychologique, pour le coup, dans ce film, qui a un peu dérouté les spectateurs. 445 000 entrées en France. Quatrième extrait, cette fois-ci, on rentre encore dans un autre genre qu'a pu affectionner Soderbergh.
Maintenant, j'aimerais rajouter quelque chose. Je tiens à ce que cela soit très clair. Nous devons respecter les droits des paysans. Il est interdit de piller leurs champs de maïs. Il est tout aussi interdit d'importuner ces gens ou leurs familles. Si quelqu'un essaie, la justice révolutionnaire le lui fera payer.
Alors, prix d'interprétation pour Benicio del Toro à Cannes.
Ah, c'est ça, c'est l'indice.
Oui. Ah. Chez première partie ou deuxième partie, parfois le film était projeté en un seul bloc. Alors, ça pouvait être étonnant parce que la première partie est filmée en cinémascope, donc dans un ratio de 2:35. Et puis, la deuxième partie a été filmée en format plus classique cinéma, 1:85. Voilà. Ça fait un peu plus de 500 000 entrées en France. Dernier extrait.
Je trouve qu'on surestime beaucoup le sexe. Je crois que pour la plupart, les gens lui prêtent une importance exagérée. Et je crois fausse l'affirmation que les femmes éprouvent le même désir que les hommes. Je pense aussi que les femmes en ont autant envie, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. Et je me perds un peu. J'espère que vous me comprenez.
Oui, oui, oui. Tenez, ça me rappelle un truc que j'ai lu. On prétend que les hommes, eux, apprennent à aimer la personne qui les attire. Alors que les femmes, elles, sont de plus en plus attirées vers la personne qu'elles aiment.
Voix française de James Spader.
Et donc, c'est Sexe, mensonge et vidéo, Palme d'or en 89, décerné par Wim Wenders.
Oui, c'était la plus... Alors, tout le monde dit que c'est le plus jeune palmé de toute l'histoire du Festival de Cannes, mais il me semblait que Louis Malle, qui l'avait obtenu en 56, avait 24 ans, alors que là, Soderbergh avait 26 ans. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre. En tout cas, James Spader a eu le prix d'interprétation aussi masculine, voilà, comme Benicio del Toro. Donc, tourner finalement avec Soderbergh peut être plutôt gratifiant au bout du compte. Voilà, j'en ai terminé avec ce blind test spécial Soderbergh, réalisateur que j'affectionne particulièrement. Sa plus grosse entrée, c'est évidemment Ocean's Eleven, avec plus de 4,5 millions d'entrées en France et beaucoup plus dans le monde. Allez, on fait vite.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Et on passe à Épouse-moi mon pote, hein, meilleur titre de film de l'année, je pense. Yassine est un étudiant marocain bien décidé à devenir architecte en France. Mais la veille de son examen, il se prend une cuite qui l'empêche de se lever et selon le règlement en vigueur, il doit perdre son visa et être raccompagné à la frontière. Une seule solution, faire un mariage blanc. Mais comme les prétendantes ne se bousculent pas, eh bien il se résigne à épouser son meilleur ami. Seulement, c'était sans compter un inspecteur procédurier et tatillon qui compte bien faire éclater l'arnaque au grand jour. Tariq Boudali, membre de la bande à Fifi, surfe allègrement et il aurait tort de se priver sur le succès de ses collègues après Babysitting et Alibi.com. Le comédien réalise donc ici son premier film, entouré des inébranlables Philippe Lachaud et Julien Arrouti. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que Tariq Boudali ne se force pas trop, hein, ni sur la mise en scène, ni sur le scénario, qui rappelle quand même beaucoup d'autres films récents sur le même thème, tels que Né quelque part ou Paris à tout prix. Mais finalement, eh bien, cette comédie attendue remplit son contrat. Ce n'est pas très fin, ce n'est pas très surprenant, c'est même parfois un peu poussif, mais on sourit, voire on rit franchement devant cette grosse farce qui assume son comique lourd et trash. Les comédiens ont un niveau de jeu très inégal, à commencer par les rôles principaux, bon, ce qui est un peu embêtant, hein, vu quand même que le film repose sur leurs épaules, mais ils conservent finalement la même énergie communicative qu'à leur début. Le comique de situation que l'on retrouvait dans Babysitting à base de quiproquos et de gags plus ou moins grossiers est toujours présent. On ressent dans Épouse-moi mon pote une forte influence de la comédie américaine de type Frère Farrelly. De toute façon, c'est pas très compliqué. Depuis 5 ans, les réalisateurs de comédies françaises se réclament soit des Frères Farrelly, soit de Judd Apatow, mais sans jamais arriver à leur niveau. Bon, néanmoins, on évite quand même, et c'est louable, l'humour homophobe qui, en d'autres mains, aurait été utilisé comme argument principal du film. Donc, Épouse-moi mon pote, c'est une petite comédie banale, mais pas déplaisante. Et on va justement écouter Tarek Boudali, donc le réalisateur et acteur principal du film.
Visa étudiant ?
Oui.
Bienvenue en France.
Fred,
Yacine, j'habite en face.
Bah, je suis en panique pour le concours.
Allez, viens, je t'offre un verre, ça te détend.
Non, je vois pas d'alcool. C'est à l'époque où la loi sur le mariage homosexuel passait. Je me suis dit que ça laissait plus de possibilités aux sans-papiers de faire des mariages blancs. Et je me suis mis à leur place encore une fois. Je me suis dit, si moi j'étais sans-papiers, est-ce que j'aurais demandé à mon meilleur ami de m'épouser ? La réponse était oui. Et par là, je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de comédie.
Je veux juste renouveler mon visa étudiant pour un an.
Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire.
Tu veux bien m'épouser ?
C'est 15 000 euros.
Déjà, alors le thème principal du film, c'est même pas le mariage blanc, c'est même pas le mariage homo, c'est l'amitié. Jusqu'où on est prêt à aller par amitié ?
C'est juste le temps d'avoir les papiers.
Je me suis mis la pression à l'écriture et je me suis dit, faut blesser personne. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce film, dont l'homosexualité. Et je me suis dit, voilà, faut faire un feel-good movie, un film qui soit respectueux de tout le monde, pour que tout le monde se respecte en vérité. C'est le but de ce film, c'est de faire rire les gens, mais aussi, voilà, si on peut réfléchir et de se dire, faut se respecter les uns les autres, tant mieux. Donc voilà, je me suis mis la pression à l'écriture, dès que j'écrivais des vannes, etc. Et tout, je me suis dit, est-ce que ça peut blesser telle ou telle catégorie de personnes ? À partir du moment où j'avais un doute, je faisais pas. Donc c'est... Et après, j'ai même essayé en fait, les vannes auprès de mon entourage, qu'ils soient homo, hétéro, peu importe, toutes les catégories, pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient blesser ou quoi.
Ça va, mon cœur ?
Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer.
T'es d'accord pour te marier ?
Alors, oui. Mais...
Je vous déclare mari et mari.
Pourquoi, en fait, je fais ce petit clin d'œil au Maroc ? Parce que c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai des cousins à moi qui sont nés au Maroc, dans un petit village, en fait, là où ont grandi mes parents. Et c'est vrai que certains d'entre eux sont partis clandestinement en Italie. Bah, à l'époque, quand j'étais plus jeune, quoi. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver. Je me dis, voilà, moi, j'ai eu la chance de naître en France. Peut-être que si j'étais né au Maroc, je ne sais pas. Peut-être que je serais parti clandestinement en Europe ou quoi.
Agent préfectoral du Sahara.
C'est un mariage blanc.
Non.
Non. Des projets en commun ?
J'aimerais être enceinte.
Il y a d'autres thèmes qui sont abordés, comme le mariage blanc, l'homosexualité, et il y a la pression familiale aussi, qui est abordée. Il y a l'amour. Et c'est vrai qu'il faut faire de manière légère. Juste, j'ai envie de faire marrer les gens. Et si après, on peut réfléchir, tant mieux s'il peut y avoir un petit message derrière.
Il m'arrive des trucs de dingue en ce moment.
Je suis en train de te faire griller.
Voilà, c'était Tarek Boudali pour Épouse-moi mon pote. C'est la comédie qui normalement devrait bien fonctionner. On a tenu à l'écouter un tout petit peu parce qu'il a fait l'effort de venir à nos micros.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Thor est un super-héros un peu à part. Il s'agit d'une divinité inspirée de son homologue issu de la mythologie nordique. En même temps, ses origines sont humaines, ce que n'explique aucun des films pour l'instant. Dans la bande dessinée. Hein. À moins, et c'est fort possible que je sois passé à côté de quelque chose. Hein. Alors, ses débuts sur grand écran n'ont guère marqué les esprits. Le premier opus, réalisé pourtant par Kenneth Branagh, ne valait que pour son humour débile dont on ne savait pas toujours si c'était volontaire ou non. Alors après, un deuxième tout aussi crétin, piétinant allègrement la mythologie, on n'attendait pas vraiment une nouvelle suite, pourtant centrée sur la plus ambitieuse, paraît-il, des histoires du grand viking aux cheveux longs. Alors le scénario sommaire se résume en deux lignes, hein, si on fait abstraction des sous-intrigues inutiles et de nombreuses digressions, prétexte à placer quelques super-héros venus faire coucou à l'écran, Thor et son frangin, le perfide Loki, vont devoir combattre la sœur maléfique Hela pour sauver Asgard qui veut accomplir le Ragnarok, soit la destruction de la civilisation asgardienne. Alors quoi de neuf au pays des Marvel ? Eh bien Thor perd son marteau et ses cheveux par la même occasion. Le Docteur Strange fait une petite apparition, ainsi que Hulk, plus abruti que jamais. Le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, nom ridicule pour un réalisateur, mais bon, auteur de vampires, auteur de vampires en toute intimité, tente une greffe entre parodie décomplexée et esprit de sérieux. Le résultat est très déséquilibré, hein, loin de la réussite des Gardiens de la Galaxie, modèle évident. Le film essaie de s'affranchir des Marvel classiques en nous servant un cocktail mixant SF à la Besson et Heroic Fantasy de pacotille, donc avec une direction artistique surchargée très agressive qui pique vraiment les yeux. On se croirait même devant le cinquième élément, filmé par un junkie en mal de couleur flashy. Alors au final, ce n'est rien d'autre qu'une grosse croûte numérique, parfois divertissante et drôle, voire scato, parce que l'espèce de trou noir s'appelle, il fallait l'oser, l'anus. Mais le plus souvent éreintante et d'une débilité totale. Bref, il est loin le temps de l'élégance de Spider-Man. À noter juste une apparition de Jeff Goldblum, excellent, en espèce de tyran bouffon. C'est voilà. Tout. Ouais, c'est un peu maigre hein, comme film, mais bon, 2h15 quand même. Hein.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Enfin, contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qui a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, on a fait la part belle au cinéma et à tous les cinémas. Et ce sera la même chose la semaine prochaine. Il y aura Daddy Cool, notamment, avec une interview.
Et je vous parlerai également de Jeune femme, la caméra d'or à Cannes.
Et moi de Carbone, d'Olivier Marchal, le dernier film.